Vous êtes à Boulevard 102.1, 15h57. Un sujet qui fait jaser dans l'actualité assez fréquemment pour mille et une raisons, c'est quand on parle de consommation de drogue. On en parle au niveau judiciaire, évidemment, quand il y a des arrestations, mais quand la période de festival arrive, c'est sûr qu'il y a un peu plus de prévention à faire, hein, pour mille et une raisons. Il y a plein de choses qui sont sorties dans l'actualité récemment. On a entendu parler d'un gars du côté de Laval qui a carrément perdu ses bras parce qu'il pensait consommer de la cocaïne. Finalement, c'était coupé, puis il s'est ramassé avec des complications qui l'ont, bref, mené là. On lisait aussi dans l'actualité la méthamphétamine qui est de plus en plus populaire à Québec, le meth. À quel point on le ressent, ça, sur le terrain? C'est un peu la question qu'on veut aborder avec Marie-Christine Leclerc, qui est infirmière clinicienne, qui est responsable du volet service aussi chez SAPSA. SAPSA, c'est pas la première fois que je vous en jase, hein? C'est une coopérative de solidarité. C'est un organisme à but non lucratif à Québec. Ça appartient en 2011, ça, de mémoire, par 5 membres fondateurs. Puis le but, c'est vraiment d'aider les populations vulnérables. Puis avec le temps, SAPSA a développé des services que je trouve super trippants. Donc, chaque année, j'essaie de leur faire une petite place parce qu'entre autres, ils ont un service mobile. Ils se déplacent dans les festivals et ils testent les drogues. Vous attendent pas qu'un policier, là, vous n'êtes pas arrêté. Le but, c'est vraiment de prévenir ce qui pourrait créer malheureusement des surdoses ou des complications encore plus graves. Et ce qui est le fun, c'est que SAPSA aujourd'hui a été reconnu par le gouvernement du Québec comme la première clinique publique d'IPS. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On l'accueille. Marie-Christine, salut!
Bonjour!
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Merci de prendre le temps. C'est une belle et grosse journée quand même pour SAPSA, là, d'être reconnue par le gouvernement comme la première clinique publique d'IPS. Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous?
Ben, effectivement, c'est une grande journée pour nous quand même. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et de collaboration avec les différents partenaires. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que nous, on va avoir accès à un financement qui provient d'un cadre de référence de Santé Québec, là, pour être officiellement une clinique IPS OBNL. C'est la première qui voit le jour dans la province, en espérant que ce soit pas la dernière et qu'il y en ait, que ça puisse inspirer d'autres OBNL aussi à se lancer dans cette aventure-là. Pour nous, c'est sûr que c'est la continuité de nos services, la continuité de notre clinique de proximité qui est le cœur de la coopérative, mais ça va nous assurer un financement là qui va amener un grand soulagement puis une pérennité à la coop.
Mais je suis bien contente pour vous autres. Je veux qu'on parle ensemble du nombre de surdoses qui est en hausse. On lit hausse de mortalité chez les jeunes, explosion de surdoses. C'est comme une grosse crise, là, évidemment, selon plusieurs experts. En même temps, on dirait qu'on dit ça chaque année. Là, l'ISQ a enregistré en moyenne 67 morts chez les moins de 50 ans par semaine. On lisait dans l'actualité que le meth est de plus en plus populaire à Québec. Est-ce que vous le ressentez, ça, vous?
Bien, c'est sûr que nous, on le ressent. Tu sais, je peux parler, moi, pour les services qu'on offre et pour le service de, mis à part la clinique de proximité, on a un service de consommation supervisé, l'interzone et une clinique mobile en prévention des surdoses. Donc, oui, on le ressent dans ces deux volets de services-là et aussi sur la clientèle qui a quand même plusieurs conséquences d'une consommation qui peut amener des effets très, très néfastes pour la santé. On peut dire que, par exemple, au service de consommation supervisée, la substance qui est la plus consommée chez nous, c'est quand même de la méthamphétamine. Il y a une majorité de stimulants, mettons la méthamphétamine, là, qui est un élément central. C'est aussi parmi les substances qui sont analysées dans le service de vérification. Ouais. Les stimulants représentent quand même 67 % là, des substances qui sont vérifiées.
Puis là, écoute, moi, je ne suis pas la plus grande, pas une très grande consommatrice de drogue, là. Le meth en soi, c'est quoi les effets, mettons? Tu sais, je pense aux gens peut-être qui vont en consommer pour la première fois. À quoi on s'attend? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je vais le dire comme ça, là.
Bien, à vrai dire, un élément central, c'est que la personne qui veut consommer ou qui a projet, par exemple, de consommer une substance, ben, elle s'attend à voir les effets reliés à une substance X, par exemple la méthamphétamine, où là, on parle de stimulants, c'est-à-dire c'est des substances qui vont amener des éléments, par exemple, d'accélération, de rapidité, de perturbation aussi à certains niveaux. Puis c'est des éléments, par exemple, des substances qui peuvent amener aussi certaines modifications dans les perceptions, puis certains éléments qui peuvent s'apparenter parfois à des symptômes de psychose, pour dire quelque chose, ou des éléments qui vont s'apparenter à des enjeux de santé mentale et qui peuvent amener des réactions qui peuvent être complètement imprévisibles et qui peuvent amener les gens à se mettre dans des situations extrêmement à risque.
Puis, quand vous testez ces drogues-là, par exemple, une personne se présente avec du crystal meth, il veut savoir si sa drogue est sécuritaire ou non. Pouvez-vous nous décrire concrètement comment ça se passe? Vous prenez, qu'est-ce que vous faites là, dans la petite clinique mobile?
Bon, tout d'abord, après, on commence par faire un premier contact avec la personne pour savoir c'est quoi son objectif, quand est-ce qu'elle pense consommer cette substance-là, qu'est-ce qu'elle cherche comme effet, comme objectif, ou quelles sont ses connaissances de base là en prévention des surdoses aussi, quels sont les modes de consommation qu'elle va utiliser, l'aspect préventif, est-ce qu'elle va consommer seule ou pas, c'est quoi son plan de match là pour la consommation. Ensuite, on va prendre une minuscule quantité de substance qu'on va pouvoir vérifier avec un appareil qui s'appelle un spectromètre. Et là, on va être capable de détecter la substance qui est présente dans l'échantillon. Si elle est présente à plus de 5 %, on va être capable de la détecter. Puis on va être capable de détecter s'il y a des contaminants aussi qui sont associés ou si jamais c'est autre chose que ce que la personne pensait consommer. C'est là souvent l'enjeu et c'est là-dessus aussi qu'on est capable de dire, ben voilà ce que toi tu penses consommer, mais voici ce que tu peux consommer, voici les effets qui peuvent se produire si tu consommes cette substance-là. Mmh. Le but, c'est de donner le plus d'informations possibles aux personnes pour qu'ils puissent faire un choix éclairé là, de leur consommation pour que ce soit le plus sécuritaire possible.
Puis là, j'imagine, si je veux rassurer les gens, là, que c'est ça, il n'y a pas de pogne de « t'as acheté quelque chose dans la rue illégalement et voici des menottes ». Là.
Non, pas du tout. C'est un service, autant le service de consommation supervisée que le service de vérification de substances de la clinique mobile, qui sont encadrés par des exemptions du fédéral, du provincial, pour être capable d'opérer un tel service. L'objectif de tout ça, c'est la prévention des surdoses. C'est-à-dire, plus on en sait sur la personne et sur la substance qu'elle vient consommer, mieux on est capable de l'accompagner là-dedans, pour que ce soit sécuritaire pour elle et pour son entourage également. Et lorsqu'arrive un moment où la personne a besoin de services supplémentaires, de santé, d'intervention psychosociale, ben on est capable d'agir le plus rapidement possible dans une approche de réduction des méfaits.
Êtes-vous dans pas mal tous les festivals cet été?
Plusieurs festivals de la capitale nationale. On est présentement au FEC, on va aller au festif sous peu, on va aller à Cigale également, en volée macadam. Fait qu'on en fait quand même plusieurs.
Pour vrai, oser aller les voir, c'est quand même vraiment bien fait. Puis avant qu'on se laisse, j'ai envie de jaser quand même des différents services de SAPSA en général. Les gens qui n'ont aucune idée ce que c'est, mettons, là. Peut-être juste nous décrire un peu plus ce que la coopérative fait, mettons, pour les gens peut-être un peu plus vulnérables.
Bien, à la base, on est une clinique de proximité composée d'infirmières, d'infirmières praticiennes, d'intervenants psychosociaux, qui sont là pour rendre accessibles les soins aux personnes désaffiliées, aux personnes qui trouvent pas leur place dans le milieu, dans le réseau traditionnel. C'est ça la base de notre mission, rendre accessibles les soins, offrir des services aux gens vulnérables. Au fil du temps, ben la complexité des problèmes de santé puis des problèmes sociaux nous ont amenés à offrir et développer un volet de service qui est un service de consommation supervisé et une clinique mobile en prévention des surdoses. Mais à la base, tout ça est interrelié parce que quand on a des enjeux de dépendance ou de santé mentale, ou si on a une consommation récréative, ben on peut être exposé à certains facteurs de risque pour la santé aussi psychosociale. Donc, on veut être capable d'intervenir puis que les gens puissent trouver un accès puis une place quand ils se sentent moins rejoints par le système traditionnel.
Vous êtes dans quel coin, la clinique?
On est situé dans Saint-Roch, sur la rue de la Couronne.
Génial. Marie-Christine Leclerc, je sais que les entrevues, il y en a quelques-unes aujourd'hui. Je vais te laisser aller. Infirmière clinicienne responsable du volet service SAPSA, on se rejoint un C4.
Je te remercie beaucoup. Bonne fin de journée.
Bonne journée, un gros merci. c'est vraiment une entrevue qu'on dirait que je tiens à faire chaque été. Ben, un, parce que les articles continuent de sortir et de sortir et de sortir. On s'en sort pas. Parce que le marché bouge aussi. Ce qui était super populaire l'année passée, pas même affaire que cette année, les conséquences changent également. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme concept de dire, hey, regarde, on n'est pas là pour te pogner, mais si tu as acheté du stock puis tu sais pas ce que tu consommes, mais non, le faire tester 2 secondes, au moins tu vas savoir ce que tu prends.
Puis en échange d'un service qui est offert pour la sécurité des gens qui consomment, ben, y a aussi le fait que ça devient une porte d'entrée pour des services. C'est que, c'est sûr qu'ils ne sont pas là pour leur faire la morale, ils ne sont pas là pour leur essayer de les envoyer en rehab le jour même.
Pas en tout.
Mais veux pas, quand tu as rencontré une infirmière et qu'elle t'a fait part de certaines choses, ben, peut-être que tu vas avoir plus tendance à te tourner vers eux le jour où tu serais prêt à changer les choses.
Si tu as des problèmes, oui.
Si tu as des problèmes. Puis SAPSA, je veux juste vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis je sais pourquoi c'est une journée importante pour eux aujourd'hui, c'est que ça fait des années que cette clinique-là ne rentre pas dans les petites cases du gouvernement puis du système de santé.
Ah, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale.
Ah, mon Dieu. Puis ça fait depuis 2011 que ça existe. On est rendu en 2026 et ils viennent d'être reconnus comme un pan officiel.
Ça
a failli fermer. C'était Gaétan Barrette qui était ministre de la Santé. On avait un ministre de la Santé. C'est très original. Puis des cliniques d'infirmières, ben, ça n'avait pas l'air de l'intéresser énormément plus qu'il faut. Et il y avait eu campagne de financement. Je me rappelle, moi, je travaillais dans l'opposition. On posait des questions sur SAPSA à tous les jours. Agnès Malte, à l'époque, qui se battait pour garder cette clinique-là ouverte.
Elle n'est pas rendue, j'allais dire, présidente d'honneur, là, mais...
Elle est toujours impliquée auprès de SAPSA. Et même, à un moment donné, un donateur anonyme a donné un énorme montant d'argent pour sauver la clinique, et je pense que ça a permis à la clinique de se garder la tête en dehors de l'eau. Et là, enfin, la clinique est reconnue. Donc, tantôt, elle disait, j'espère que ça va faire des petits puis qu'il va y avoir d'autres OBNL comme ça qui vont se former, mais...
C'est dur!
Je veux dire, on donne pas beaucoup envie, là. Ça leur a pris 15 ans, là, je sais pas compter, là, 15 ans pour réussir à se faire reconnaître. Puis, c'est ça, c'est que tu ne rentres pas dans les petites cases du gouvernement parce que tu es issu d'un besoin sur le terrain. Ça fait pas partie de la planification stratégique du ministère. Puis tu sais, je veux pas parler contre les fonctionnaires, mais des fois, il y a des besoins qui arrivent grassroots, là, parce que ça arrive des besoins directement, puis ça répond à un besoin. À l'époque que la clinique SAPSA a été ouverte, c'était les ITS qui étaient vraiment répandus, SIDA, hépatite C, puis il y avait un besoin qui n'était pas rempli sur le terrain. Maintenant, on parle beaucoup de la crise des opioïdes. C'est quelque chose qui est partout. Tu as fait référence tantôt à plusieurs articles sur les morts par surdose. Un phénomène qui est quand même interrelié avec celui de l'itinérance à Québec. On est-tu content d'avoir SAPSA à Québec maintenant, qui est fonctionnel?
Ah, mais je trouve ça extraordinaire.
Pour nous aider à faire face à ces crises-là.
Dans le bon coin de la ville aussi, là, on va se le dire, là, directement dans Saint-Roch. Ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Puis des fois, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces organismes-là qui aident à Québec. T'sais, on connaît les grandes, là, l'Aubrivière.
Bien sûr. Ils sont tous reliés, hein? Ils collaborent les uns avec les autres. Puis,
définitivement.
On parle souvent d'essayer de briser les silos pour des problématiques qui sont complexes. C'est plus facile de briser des silos avec des petits organismes qu'avec des gros ministères en passant. Puis ça, je trouve qu'à Québec, on a vraiment une belle mobilisation en ce moment. Bon, tout n'est pas parfait, puis c'est des défis qui sont vraiment très, très compliqués. La crise des opioïdes, ça en fait partie. Moi, j'ai été affolée de voir les chiffres dont tu as parlé tantôt, le nombre de morts par surdose par semaine. Ça, c'est des gens qu'on perd dans notre société puis qu'on n'est pas capable de rattraper d'une manière ou d'une autre.
Ça fait pitié.
Bien, c'est les frères, les sœurs des gens, c'est les enfants de quelqu'un. Puis, on a un problème aussi dans la manière dont on traite les toxicomanes. On les traite comme des criminels, comme des sous-citoyens. Ils sont pas toujours, c'est pas toujours facile de rentrer dans le système de santé puis être accueilli. Il y a de la criminalité aussi à travers ça.
Il y a un petit manque d'humanité, mettons, de notre part des fois. Là. Généralement, il y a des gens qui tombent là-dedans pour une raison.
De savoir, tu sais, quand on dit que quelqu'un est mort par surdose de méthamphétamine, par exemple, est-ce que les gens ont vraiment de la peine ou ils se disent, ben c'est ça, ben oui, il a couru après. Tu sais, c'est une maladie, la toxicomanie aussi. De voir qu'ils peuvent être accueillis à quelque part sans être jugés, sans qu'il y ait des policiers qui les attendent à la sortie. D'ailleurs, il doit avoir, on n'a pas eu le temps de poser la question, mais une collaboration aussi avec les policiers pour pas que les policiers, s'amusent à pogner le monde.
Ils sont
sortie,
très bien affichés, là. La première fois que je les ai rencontrés, là, c'était du côté de Tigale il y a quelques années. Je pense à la première édition, si je me trompe pas, il y a quoi, 4 4 ans maintenant. Puis tu sais, les policiers sont vraiment pas dans ce secteur-là. Les laissent faire leurs affaires. Puis il faut aussi, parce que sinon, on n'oserait pas y aller. C'est, là, on parle vraiment des gros colos de toxicomanie, mais je veux dire, quand ça se promène dans les festivals, c'est pour que toi puis moi, qui
ouais,
peut-être
les jeunes,
malheureusement.
Plus récréatifs.
Oui, tu sais, je veux dire, hey, je me suis fait demander ça. Littéralement, il y a 2 jours, on marchait pour retourner à l'auto. J'avais un kit qui montrait clair Malbedon, là, dans le sens que, tu sais, puis on s'est fait arrêter à 2 reprises. Hey, t'es-tu de la côte, toi, pas loin?
Ben oui,
je te jure, hey, je me suis vraiment dit. Hein? Qu'est-ce qui se passe par des gens très, très, très en boisson? Puis écoute, en boisson, au point où moi, la policière, elle devait être à 200 mètres. Le gars, vraiment pas réfléchi.
Mais comme des gars sur le party.
Oh, ouais, des gars sur le party.
Ah, ouais.
Des gars sur le party. Puis vraiment, je sais pas si la gang se connaissait, mais à 3 minutes d'intervalle.
Et c'est cette gang-là en cherchait.
Ah, oh, ouais, eux autres, c'était le plan de fin de soirée. Bien écoute, correct, sans jugement, là. Mais tu sais,
c'est juste que de se promener dans les rues en demandant à tout le monde, c'est pas une bonne planification de ta soirée. Mais c'est écoute,
surtout avec le nombre de policiers qu'il y a dans le vieux pendant le fête.
Mais c'est con, mais c'est exactement de même aussi que tu peux tomber sur de la merde.
Absolument.
Là.
C'est sûr. Et c'est pour ça que ça se promène dans les festivals.
Exact.
Tu sais, du genre, hey, regarde, tu le fais, c'est bien correct, enjoy, ça se peut que ce soit pour une soirée, puis et du fun, mais comme, assure-toi de pas prendre n'importe quoi, puis pas finir à l'hôpital, tu sais. Fait que ça, puis ça, si jamais vous les voyez, n'ayez pas peur d'aller leur jaser, OK? 88-971-102 texto, il est 16h13, gros tour d'actualité dans les prochaines minutes, et on va rejoindre un peu plus tard Elisabeth Crête, qui va nous faire sa chronique du jour. Elisabeth, elle est, mon Dieu, animatrice, journaliste, vous l'avez connue à Québec, à Montréal, sa voix, on la reconnaît très bien, puis elle vulgarise super bien l'actualité. Puis on va parler avec elle de courtage immobilier. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a un cas qui fait les manchettes aujourd'hui pour avoir été jeté dehors de sa bannière, Remax pour ne pas la nommer, parce qu'il a osé offrir des services en échange d'une commission de 1,25% au lieu de 4-5% habituel. Ça mène à plein de questions sur notre modèle d'affaires ici au Québec par rapport à ça. Je pense que ça va être intéressant. D'ailleurs, vous avez des choses à dire, bien, ça se passe toujours par texto. On revient.
Le retour. Valébrasdunord.com.
Le chantier naval Davy recrute à Lévis plus de 500 postes à combler. Peintre, électricien, assembleur, contremaître, on a besoin de toi. Davy, c'est le plus grand chantier naval au Canada. Des conditions de travail solides, un carnet de projets rempli. Jusqu'en 2040, de la job, t'en manquera pas. Une industrie qui est très en santé, un employeur de premier choix qui offre des avantages multiples. Assurance complète, santé invalidité, régime de retraite, événement d'entreprise, programme d'aide aux employés et télémédecine. Congé payé 2 jours mobiles, 2 jours pour obligation familiale, congé payé durant les fêtes quand on ferme le site, ambiance de travail positive soutenue par l'employeur et un stationnement gratos sur place. Des horaires de travail qui vous donnent plus de temps personnel, de jours, des semaines de 4 jours, 10 heures, de soir, semaine de 4 jours, 10 heures avec prime et mon option préférée, fin de semaine, des semaines de 3 jours. 12 heures payées, 40 heures avec prime. Ose le grandiose pour ta carrière. Postule davyrecrute.ca.
La légende disait qu'on...
Et si vous venez de vous joindre à Boulevard 102.1, ben bienvenue, bienvenue chez nous. Vous êtes dans le retour de Boulevard. C'est le retour qu'on fait cet été, retour à la programmation régulière pour ce qui est de nous autres, le 3 août. Par contre, la programmation complète revient le 10 août. Donc, quand je parle du 3, c'est vraiment Denis, Véro et moi. On se remplace à partir du lundi 3 août prochain. Fait qu'il reste quand même quelques semaines où on est en équipe différente l'été. C'est un brassage de cartes, le fun, faut le dire. Le Max, qui d'habitude est le matin, vient nous rejoindre l'après-midi. Antonine, qui chronique avec nous tous les jours, qui là est le pilier principal du retour cet été.
C'est ainsi.
C'est quand même pas pire. Donc, je m'appelle Audrey Pinchot. Jusqu'à 18h, on est ensemble. Vous venez de l'entendre, Antonine Iacarini. Max Larouche, qui est là également. Vous avez envie de nous rejoindre? 88-971-1021 par texto, 88-780-1021 par téléphone. Évidemment, il y a nos différentes plateformes. Vous pouvez nous écrire sur Messenger aussi. C'est un peu moins rapide de réponse, là, mais ça se fait. Et citoyen commercial blvd.fm. Si jamais vous êtes en recherche de contact pour une histoire, un dossier, vous voulez creuser quelque chose, on a Mathias Turcotte, qui est notre journaliste terrain, qui est jamais bien loin. Il donne un coup de pouce en onde, là, mais il y a toujours un petit dossier sur le site, fait que vous n'hésitez pas si vous voyez quoi que ce soit. Peut-être faire un tour dans la circulation. Henri IV Nord, à la hauteur du chemin Sainte-Foy, la voie droite qui est bloquée. Il y a un accident depuis une vingtaine de minutes, si c'est pas plus. Les policiers qui sont sur place présentement. On parle pas de remorquage pour l'instant, mais si vous avez des détails, n'hésitez pas. Mais ça fait en sorte que c'est un vrai bordel. Pour vous donner une idée, là, si vous êtes... en fait, si vous tentez de vous rendre, ça arrive sud ou ça arrive nord par le pont Pierre-Laporte en ce moment, là, je vous conseille d'arrêter de prendre une bière. C'est vraiment, vraiment difficile. Henri IV Sud, à partir de Charest, vous sentez le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. 73 Nord, à partir de la rotonde, ça ralentit jusque sur le pont, jusque l'autre bord. Là. T'sais, pour vous donner une idée, là, ça transfère jusqu'à Henri IV Nord, hauteur chemin Sainte-Foy. Fait quand je vous dis que c'est bordélique, là, Duplessis Sud, à partir de chemin Sainte-Foy, vous le sentez pour aller chercher le pont aussi. Capitale, direction Est, ça se passe à la hauteur de Robert Bourassa, ouest entre Bourg-Royal et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Charest et la capitale surtout, et la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. D'ailleurs, est, hauteur Taniata, il y a un léger ralentissement aussi. Sur Taniata, entre Guillaume Couture et la 20, sur la route du président Kennedy, entre Guillaume Couture et la 20, un peu compliqué aussi. Et parlant de Guillaume Couture, dans les deux directions, dû aux travaux, entre Monseigneur Bourget et Taniata, on sent quelques ralentissements. Ça, ce sont les grandes artères. Si vous voyez autre chose, vous vous gênez pas. Au 88-971-1021, texto. Tour de nouvelles, dis-je mal. Max, il n'y a pas beaucoup de nouvelles hein, aujourd'hui, c'est tranquille.
Non, c'est très mollo. Je vous dirais que la nouvelle qui retient l'attention, c'est l'Office des transports du Canada qui a approuvé aujourd'hui le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, un projet dont on parle depuis des années et des années. On peut lire dans la décision que l'autorisation permet la construction d'environ 12,5 km de nouvelles lignes ferroviaires et des infrastructures connexes qui permettront de détourner le trafic ferroviaire du centre-ville. On comprend que là-bas, avec ce qui est arrivé, il y a un genre de trauma là, qui s'est installé. Ce qu'on mentionne, c'est que les motifs détaillés de la décision de l'Office seront publiés séparément au mois d'août. Et ce qui a fait, entre autres, que ça a été long, puis long, puis long, là, il y avait des groupes qui contestaient parce qu'on va détruire des milieux humides pour la nouvelle voie ferroviaire et tout ça. Mais là, la décision qui a été prise, c'est un projet qui a été évalué à 133 millions de dollars, mais ça, c'était en 2018, quand Ottawa promettait de financer 60 % du projet. Québec qui financera l'autre 40 % mais c'est ça, le 133 millions, ça doit avoir monté un petit peu. Il y a aussi, puis en passant, on va au moins faire la petite mise à jour, il y a du nouveau dans l'actualité, c'est des réactions par rapport à cette nouvelle-là. La mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin notamment, qui mentionne qu'après 13 ans de travaux, de consultations, de démarches, ben, c'était la dernière étape réglementaire à franchir avant que le gouvernement puisse procéder à la construction. Donc, mentionne que c'est une très belle journée aujourd'hui. Un rapport du Bureau de la sécurité des transports du Canada soulève plusieurs lacunes sur la voie ferrée où un train a déraillé le 5 juillet du côté de Repentigny. Les experts qui ont notamment constaté que plusieurs anti-cheminants étaient manquants ou déplacés. C'est ça qui aurait pu réduire, nous dit-on, la stabilité du train, mais le bureau qui nous mentionne quand même que les causes exactes restent inconnues. L'enquête qui se poursuit. On dit juste, ouais, ça pourrait avoir participé. Le quatrième et dernier suspect du vol de données chez Desjardins, Maxime Paquette, a été arrêté au Mexique. Il était recherché depuis le mois de juin 2024. Paquette qui va rester détenu à Cancun durant le processus d'extradition pour le ramener au Canada. Le suspect qui va comparaître ensuite pour des accusations de fraude de plus de 5 000 $ de vol d'identité et de trafic de renseignements identificateurs. Un policier de la Montérégie se retrouve dans l'eau chaude après avoir invité un automobiliste noir à retourner dans son pays s'il n'était pas content. On entend le conducteur, Abel Junior, s'il a 21 ans, accuser le policier de discrimination raciale. L'agent répond en lui lançant « Monsieur, si vous n'êtes pas content d'être au Canada, vous avez la libre volonté de pouvoir quitter. » On ne voit pas le début ni la fin de l'intervention dans la vidéo, évidemment, comme c'est souvent le cas. Là, on a un petit montage. Le directeur général de la municipalité de Ville-Mercier, où c'est arrivé, a confirmé à l'agence QMI que le policier impliqué dans l'événement a été retiré de la route, a été affecté à des tâches administratives le temps qu'une enquête interne soit menée. Mais QMI est aussi allé nous chercher le CV du jeune homme Abel Junior Silla, qui dit qu'il a été, qui est tout le temps arrêté pour discrimination raciale. Le jeune homme a écopé de 9 constats d'infraction depuis le début de l'année 2025, notamment pour vitesse, pour avoir conduit sans permis de conduire valide et pour avoir conduit un véhicule alors que son permis de conduire était sanctionné. Il a aussi été arrêté 3 fois au cours de la dernière année, soit pour incendie criminel et avoir déchargé une arme à feu, ça c'était dans le coin de Laval, pour conduite dangereuse à Montréal et pour port d'armes dans un dessin dangereux et menace à Longueuil. Au sport, on a maintenant le calendrier de la saison 2026-2027 2027 du Canadien de Montréal. Pour la première fois depuis les années 80, il y aura des matchs au Centre Bell durant le temps des fêtes, les 26, 27 et 29 décembre contre Toronto, Dallas et Columbus. Et il y aura ensuite le voyage en Floride un petit peu plus court, dès le 31 décembre pour seulement deux matchs à Tampa et Sunrise. La saison qui va débuter à Toronto le 29 septembre, le premier match à domicile sera disputé le 6 octobre face aux Hurricanes de la Caroline. Pour ce qui est du retour au Centre Bell de Brandon Gallagher, il va falloir attendre au 6 mars avant la visite des Canucks de Vancouver.
Merci Max. Présentement 22 à l'extérieur. Au ressenti, on est autour de 25 degrés. On n'a plus le ciel bleu qu'on avait, quelques nuages. C'est sûr qu'aujourd'hui, on prévoyait peut-être quelques averses selon les radars. Maxime, comment ça se passe? Parce que tu vois, on est à 12 degrés pour ce soir et cette nuit, on parle de quelques nuages, mais il n'y a pas de pluie selon Environnement Canada. Sauf que, tu sais, ça change tout le temps, dépendamment d'où tu regardes. Là.
Non, c'est ça, mais quand je regardais tantôt, là, on était quand même, on est bien, là. On avait une possibilité d'un petit peu de pluie, genre en ce moment. Mais de ce que je vois, ouais, aux alentours de 17-18 heures, on pourrait avoir un petit peu de pluie, mais le système va surtout aller frapper du côté de Montmagny, mettons, un petit peu plus à l'est.
Bon, fait qu'on est correct en ville.
On devrait relativement s'en sauver, puis de toute façon, le rendu à l'heure des spectacles. Mais tu sais, ça va être un pas pire système là, qui va frapper exactement entre Québec et Chicoutimi, mettons. Mais nous autres, on pogne juste le bout. Fait que si on pogne quelque chose... Hein, ça, tu voulais
des détails. T'as compris la mission. Demain, ce sera 25 degrés généralement ensoleillé. On est à 13 en soirée. Samedi, c'est la journée poche. Pluie, 19-14 en soirée avec de la pluie également. Et retour du soleil pour dimanche. 16h28, on adore collaborer avec elle. Elisabeth Crête, journaliste animatrice, vulgarisatrice d'actualité, elle fait tout, tu fais là, c'est pas compliqué. Et on jase d'un sujet aujourd'hui qui est quand même intéressant. Il y a un courtier immobilier qui fait les manchettes pour avoir été jeté dehors de sa bannière Remax, pour ne pas la nommer, parce qu'il a osé offrir des services en échange d'une commission d'1,25% au lieu de 4-5% mettons habituellement là. Fait qu'on remet un peu en question le modèle de rémunération des courtiers immobiliers. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir comment ça marche ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on paye plus cher ici au Québec pour vendre notre maison, on a l'impression que oui. Donc, Elisabeth Crête, qui est au bout du fil, comment ça va?
Salut, ça va bien, vous autres?
Ça va très bien. C'est quoi ce cas-là exactement? Qu'est-ce qui fait qu'on déchire un peu notre chemise? Parce que j'ai l'impression, vite comme ça, que d'offrir des services à 1,25, c'est un courtier qui est vraiment très, très, très gentil, là.
Non, mais écoute, c'est spécial parce que c'est la deuxième fois qu'on voit un article ou un reportage qui remet un peu en question le modèle des courtiers immobiliers. Il y a un autre courtier qui s'appelle Rémi Chapleau, il y a quelques semaines, qui a fait une série de publications sur son Facebook pour justement dénoncer le modèle qu'on voit présentement, mais surtout dénoncer le fait que tu n'as pas le droit comme courtier, essentiellement, d'afficher une commission plus basse parce que l'industrie au complet te tourne le dos par la suite. Là, t'sais. Et là, ce matin, ce qu'on voit, c'est que c'est un courtier qui a 7 ans d'expérience qui a dit, ben moi, je vais essayer un nouveau modèle, je vais offrir une commission de 1,25% pour voir s'il y a une demande pour ça, si il y a des clients qui disent « Ah, ben moi, ça m'intéresse ». Et écoute, il a fait une publicité pour annoncer ça, puis ça n'a pas pris 24 heures que sa bannière Remax lui disait « Tu retires ça, sinon on va t'inviter gentiment à quitter la bannière oh. ». Les courtiers, écoute, levée de bouclier. C'est un peu gossant que tu n'as pas le droit au Québec de remettre en question ce modèle-là de rémunération, là. Mais parlons-en du modèle en tant que tel. Comment ça fonctionne ici au Québec, c'est que la commission est payée entièrement par le vendeur. Alors, toi, Audrey, tu as une maison à 500 000, tu veux la vendre, tu vas embaucher un courtier immobilier pour la vendre, il va se prendre 4 ou 5 % sur ouais. le montant de vente de ta maison. Et ensuite, lui, il va prendre ce montant-là, il va le diviser en deux, puis il va en donner aussi au courtier de l'acheteur qui a acheté ta maison. Exactement. Fait que l'acheteur ne paie absolument rien et toi, tu as financé l'achat et le courtier de l'acheteur, finalement. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne ici au Québec. Et c'est la même chose partout au Canada, États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni. Le pourcentage peut varier, par contre, et c'est là que c'est intéressant. À d'autres endroits, par contre, la rémunération du courtier est partagée entre le vendeur et l'acheteur. Et ça, c'est intéressant parce qu'en Allemagne, par exemple, si la commission totale est de 3,5%, par exemple, bien, le vendeur paie la moitié de ça. Et l'autre moitié, c'est l'acheteur de ses poches à lui qui va débourser. Alors ça peut être intéressant.
Mais je trouve ça intelligent.
Ben oui, parce que sur ta maison de 500 000, Audrey, mais mettons que tu payes 4 % mettons que la commission totale, c'est 4 % ben il y a 2 % qui va sortir de tes poches à toi et 2 % de l'acheteur. Alors, au final, au moins, tu sauves de l'argent un peu.
Mais
là.
C'est que dans ma tête, chaque acheteur ou vendeur là, devrait payer son courtier, tu sais.
Ben, c'est ce que je pense aussi, mais au Québec, c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu achètes une maison avec un courtier, tu paies pas une scène de ta poche. Ça, c'est assez particulier. Hey, petite note en passant, vous saviez qu'au Québec, on paie des taxes sur la commission, hein? Fait que je vais vous donner un cas type, là. Par exemple, tu as une maison à 800 000 que tu vends, t'es propriétaire d'une maison à 800 000, alors ta commission va te coûter 4 %, c'est à peu près 40 000, si je me trompe pas, et à ça, tu vas ajouter 15 % de taxes. Et c'est un 6 000 supplémentaire. Fait que ce que tu vas payer de ta poche, c'est pas 40 000 pour le courtier, c'est 40 000 plus 6 000 de taxes.
Ça revient cher rapidement, hein? On est-tu... est-ce qu'on paie plus cher ici au Québec pour vendre notre maison qu'ailleurs en général?
Là, on va parler des pourcentages. Au Canada, c'est entre 3 et 5 % tout dépendant. C'est la même chose au Portugal, en Suisse, en Allemagne et en Italie. Aux États-Unis, c'est autour de 5-6 % environ. Royaume-Uni, entre 1 et 3 % Aux Pays-Bas, 1 et 2 % à peu près, entre 1 et 2. Mais il y a des modèles dans le monde qui sont différents. Par exemple, en Corée du Sud, c'est l'endroit le plus bas au monde. La commission est entre 0,4 et 0,7 % du prix de vente de la maison. Alors là, ça commence à être intéressant. Mais moi, le modèle qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui du Japon. Parce qu'au Japon, le pourcentage de la commission est déterminé en fonction de la valeur de la maison. Alors, les plus petites transactions, comme un terrain, par exemple, ben là, le courtier peut charger 5 %, mais les maisons qui valent plus de 4 millions de yens, c'est essentiellement la majorité des maisons au Japon, là, en passant, c'est un maximum de 3 % que les courtiers peuvent charger. Fait que, mettons qu'on avait quelque chose de similaire ici au Québec, ça pourrait vouloir dire toutes les maisons de 800 000 et plus, le courtier ne peut pas charger plus de 3 %. Parce que ici au Québec, c'est pour ça. Tu as une maison de 1 million et une maison à côté de 3 millions, ça va demeurer 4 ou 5 %, là, tu comprends? Alors que c'est une grosse différence pour le vendeur, là, on s'entend.
Ben, mon Dieu, oui.
Alors ça, c'est un modèle que j'ai bien aimé au Japon, c'est-à-dire qu'au-dessus d'un certain montant de vente de la maison, le courtier ne peut pas charger plus qu'un tel pourcentage.
Mais c'est plus juste aussi parce que tu dis qu'à ce moment-là, le courtier n'a pas envie de prioriser nécessairement les grosses maisons aux plus petites, là, tu sais.
Bien, c'est ça que je me dis aussi. Là, il y a d'autres endroits dans le monde où c'est totalement l'inverse de ce qu'on vit ici au Québec. En Autriche, c'est l'acheteur qui paie la totalité de la commission. Alors, je vais te dire que c'est à prévoir au budget, hein, parce que non seulement tu achètes la maison, mais tu vas aussi financer le courtier vendeur. Fait que c'est toi, au lieu que ce soit le courtier vendeur, le vendeur de la maison qui paie la commission complète, c'est l'acheteur qui la paie au complet. Fait que toi, Audrey, tu te magasines une maison, t'en as trouvé une de tes rêves qui vaut 500 000, tu vas payer comme acheteuse 4 % pour payer les deux courtiers qui ont fait affaire avec la transaction.
Mais je trouve que c'est aussi ridicule que nous, en fait.
C'est vraiment. J'espère qu'ils n'ont pas de taxe de bienvenue en plus, parce que là, aujourd'hui, ça vient cher acheter une maison. Là. Alors. Pourquoi c'est difficile de remettre le modèle en question? Ici au Québec, c'est pas compliqué, tu ne peux pas remettre ce modèle-là en question. Là, tu vas te faire ramasser de tout bord, de tout côté. La raison numéro un, c'est que les lobbies immobiliers sont excessivement puissants. Très, très, très puissants. Et la raison numéro deux, moi, je vais la mettre sur le dos des taxes. Je pense que c'est pas très, très alléchant pour un gouvernement de commencer à parler de ça, parce qu'au final, le gouvernement va récupérer, les deux paliers de gouvernement vont récupérer la TPS et la TVQ sur chacune des commissions. Alors, plus elle est élevée, plus c'est de l'argent de plus dans les poches des gouvernements. Et l'autre raison, c'est que c'est juste les propriétaires-vendeurs qui vont se plaindre de la commission des courtiers. Le reste de la population, si t'es locataire, tu t'en fous. Si t'es acheteur plutôt que vendeur, ben, tu t'en fous. Si t'es courtier ou n'importe quoi, c'est seulement les propriétaires-vendeurs qui vont se plaindre de ça. Il y en a qui sont dans la même maison pendant 30 ans puis qui vendent jamais, finalement. Ils sont pas nécessairement touchés par ça non plus. Fait que c'est un pourcentage de la population qui est pas assez élevé pour que ce soit pas populaire politiquement de remettre ça en question. Sauf que ça commence à être tannant quand même, parce que quand les maisons valaient 150 000 $ une commission de 5 % c'était 7 500 $ Ça, tu sais, c'est correct, là. Faut quand même bien que le courtier soit payé pour le travail qu'il fait.
Oui, oui,
mais
oui.
Aujourd'hui, la maison vaut 900 000 $ Audrey. 5 % c'est 45 000 $
C'est méchante différence.
Ça, on s'entend. Ben oui, parce que le travail n'a pas augmenté nécessairement par rapport à avant. Alors, je trouve ça plate qu'on puisse pas remettre en question ces modèles-là. Peut-être qu'au final, on en viendra à la conclusion que c'est le meilleur modèle en passant. Mais pour ça, il faudrait peut-être en explorer d'autres.
L'évaluer un peu, c'est ça. Moi, ce que je trouve plate, c'est qu'on laisse pas une liberté aussi au courtier. T'sais, là, je pitcherai pas la mienne en dessous de l'autobus. Là. Je veux dire, elle a fait un bon pourcentage. Mais nous autres, on avait eu des jasettes là-dessus parce que j'étais curieuse de savoir comment ça fonctionnait. Puis, tu sais, là où il y a une certaine latitude, encore une fois, est-ce que c'est quelque chose que tu mets sur la place publique ou pas? pas bonne question, mais si, mettons, justement, il n'y a pas de courtier acheteur quand tu vends, bien là, tu es capable de peut-être avoir un pourcentage un peu plus bas parce que tu n'as pas à payer l'autre. Tu sais, il y a moyen de jouer avec le pourcentage, mais reste que je ne comprends pas pourquoi on ne laisse pas à la discrétion d'un courtier. Tu sais, chaque situation est tellement unique. Je pense aux premiers acheteurs en ce moment, Elisabeth, qui ont donc bien de la misère, tu comprends? Moi, en dedans de un an, là, situation particulière, mais j'ai vendu une maison et acheté une maison. Fait que j'ai été pas mal là-dedans, là, puis mettons que j'aurais souhaité l'éviter, mais reste que t'en apprends quand même beaucoup sur la façon de fonctionner, puis tu te rends compte que c'est de la chenoute, là. C'est vraiment de la chenoute parce que là, t'en viens à essayer de compenser le montant que tu vas payer ton courtier en augmentant le montant de ta maison.
Exact!
C'est parce que
il n'y a plus de bout. Ah, puis j'ai entendu, moi, des histoires. Peut-être que des auditeurs en ont des histoires similaires aussi. Mais tu sais, il y a quelques années, du proprio, c'était assez populaire, là.
Ouais.
Et moi, j'ai entendu des histoires de des gens que je connais qui vendaient leur maison sur du proprio. Il y avait des acheteurs qui étaient intéressés, communiquaient avec eux. Et au téléphone, les potentiels acheteurs disaient, on va venir tout seul parce que notre courtier refuse de venir avec nous. Si on achète avec toi sur du proprio, il nous représente pas.
Mais...
là, tu dis, ben là, c'est long, mais plate, tu sais. Je dis, parce que puis l'acheteur disait, on s'est proposé de le payer, tu sais, de notre poche, d'y offrir un montant forfaitaire pour le travail qu'il va faire quand même, parce que tu peux pas qu'ils travaillent gratuits, ils ont refusé. Les courtiers se tiennent entre eux, ils tiennent à leurs 4-5%, et quand il y en a un qui décide de sortir un peu du lot, ben là, l'industrie se met à dos. Écoute, Rémi Chapelot sur les réseaux sociaux, le courtier qui a finalement lâché la profession, il disait que quand il avait commencé à offrir des commissions moindres, les propriétés qu'il affichait, ben, ils étaient boycottés par d'autres courtiers qui refusaient d'aller les visiter parce que la commission serait pas assez élevée pour eux. Fait que là, tu te dis, on peut-tu juste collectivement avoir une discussion sur ce modèle-là parce que le prix des maisons a explosé. Et le modèle de rémunération, lui, n'a pas changé. Mmh. Puis peut-être, il y a des pays, Audrey, qui ont remis en question le modèle et qu'au final, ça n'a rien changé dans les faits. Les pourcentages sont restés les mêmes puis se sont aperçus que c'est ça qui était le plus simple. Peut-être que ce serait ça la conclusion ici aussi au Québec. Mais on peut-tu en parler? On peut-tu juste échanger? On a parlé de la rémunération au pourboire. On a eu une discussion collective là-dessus. On a eu des débats sur les pourboires. C'est pas terminé encore. On a eu des débats sur la rémunération des médecins tout récemment. On en a eu des conversations sur comment on peut faire évoluer des modèles de rémunération.
Mettre de l'avant.
Exactement. Pourquoi ça, on ne pourrait pas le faire? C'est juste ça qui est un peu plat.
88-971-1021, comment vous voyez ça? Je trouve ça super intéressant. Elisabeth Crête, un gros merci d'avoir pris le temps.
Plaisir.
On se jase la semaine prochaine.
Salut.
Elisabeth Crête, qui est journaliste, animatrice, vulgarisatrice d'actualité également. Je trouve le dossier quand même intéressant parce que c'est vrai. Puis t'en as des fois des courtiers qui aimeraient donc bien ça pouvoir t'accommoder. Mais parce que tu veux pas pénaliser l'autre ou te mettre à dos, justement, ces bonnes relations-là. Parce qu'il y a ça aussi, hein? C'est une game de relations quand t'es courtier, là. Tout le temps, tout le temps. Tout le monde se connaît, tu te croises. C'est vraiment particulier. Fait que pour éviter de te mettre des relations à dos, tu peux pas, justement, accommoder certaines personnes. Mais je trouve ça triste parce que c'est vrai que dépendamment de ta maison vaut combien, hey, des fois, tu te fais fourrer, là, pour vrai, là.
Oui.
C'est épouvantable,
puis... c'est beaucoup d'argent, là. On parle pas de coupe de 100 piastres, là.
Puis tu sais, avant, il y a une époque où, surprise si vous le saviez pas, quand tu passes chez le notaire, c'est quand tu... Je veux pas dire n'importe quoi. C'est quand tu vends aussi que, ou t'achètes. En tout cas, c'est quand tu vends ou t'achètes que tu payes.
Le notaire, oui.
Oui, le notaire, OK? Ouais. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, t'as un montant aussi à payer, peu importe le bord que t'es. Là, tu sais, moi, par exemple, ben en fait, c'est quand tu vends. Parce que là, tu vois, moi, on vient d'acheter, puis on a des frais surprises qui viennent de popper de nulle part, qui était comme pas là la première fois que j'ai acheté ma maison. Puis c'est comme, non, ça maintenant, ça fait partie des frais que tu dois prévoir pour aller chez le notaire, même quand t'es acheteur. Fait que là, faut pas que la journée que tu passes chez le notaire, t'aies juste ta mise de fonds. Faut que t'aies un bon montant supplémentaire, puis que tu prévois, tu sais, moi, m'a dit, littéralement, et ce montant-là, cette journée-là, ça va couvrir la majorité des frais totaux, sans même que tu comprennes exactement quels sont ces frais-là. Fait que c'est de plus en plus compliqué, puis de plus en plus d'argent dans un univers où on en a, malheureusement, de moins en moins pour certains. Il y a Christa qui nous dit, je l'ai toujours dit, les courtiers participent à l'explosion du marché. Moi, j'aime mettre un bémol, parce que je pense que ça dépend vraiment beaucoup d'avec qui tu fais affaire, mais ça fait aussi partie du pourquoi tu as des plateformes qui se sont créées. Il y a quelqu'un qui nous parle de Youbi, du groupe Abatilo.
Ouais. Ça aussi, ça a fait une levée de bouclier.
Ça barnouche que les gens n'ont pas aimé ça. T'sais. C'est le même principe que du proprio, dans le fond. Là. Mais ça nous donne des possibilités autres. Il y a même des gens qui vendent leur maison sur Marketplace.
Ben oui, j'ai vu ça.
Pour s'arranger tout seul. Il n'y a plus de... comment tu appelles ça? Là, des... voyons, sans garantie légale. Les maisons se vendent sans garantie légale maintenant parce qu'on veut pas gérer justement s'il y a des bris ou s'il y a quoi que ce soit, puis le marché est tellement fou.
C'est ça, c'est que les gens sont un peu désespérés de trouver des maisons. Donc ça te permet, c'est comme avec les garderies, on parlait de ça hier. C'est quand tu as moins de d'offres, ben ça te donne moins de levier après ça pour faire la fine bouche, c'est ça?
Absolument. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai vendu un condo cet hiver, j'avais pris Diproprio. Les agents faisaient le contact pour avoir le contrat, mais ils vont pas sur Diproprio pour l'offrir à leurs clients. » C'est un peu un racket, pour vrai.
Ben, pour avoir déjà essayé de vendre une maison sur Diproprio, après ça, il faut que tu gères tous les appels des courtiers qui essaient d'avoir la
job. Non, c'est compliqué, là. Mais bref, je trouve ça intéressant d'ouvrir la discussion. Peut-être vous dire qu'on a reçu sur texto qu'il y a un accident sur la 73 Nord avant l'accès au pont. Les services d'urgence qui arrivent, c'est la voie de gauche, 3 véhicules qui seraient impliqués au moment où on se parle. Vous avez d'autres détails, 88-971-1021, texto. Le retour. 88-971-1021, texto à Boulevard 101. Je m'appelle Audrey Pinchot. Si vous venez de vous joindre, Antonine Niacarini qui est là également, Max Larouche aussi, jusqu'à 18h, on est ensemble. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à passer par texto. Il y a aussi le 780-1021 Max. Dans les nouvelles, peut-être nous rappeler crash d'avion.
Oui, bien, ça vient tout juste d'arriver. En fait, ça marque toujours les esprits là, du côté de l'aéroport de Saint-Hubert, donc Rive-Sud de Montréal. Un petit avion qui s'est écrasé dans les dernières minutes. Incendie immédiatement qui s'en est suivi. Et ce qu'on nous dit via le journal de Montréal, c'est que le pilote était seul à bord et il aurait survécu à l'écrasement. Semble-t-il qu'il était conscient, respirait dans les instants suivants. Mais quand même, comme je dis, ça marque souvent les esprits. Tant mieux s'il y a plus de peur que de mal.
J'ai envie qu'on jase d'un sujet qu'Antonine m'a proposé un peu plus tôt aujourd'hui, qui touche quand même une question sociale intéressante. Il y a la sexologue qu'on connaît bien, Sylvie Lavallée, qui s'est déjà prononcée plusieurs fois publiquement dans les médias, entre autres, qui est sanctionnée pour avoir participé à une télé-réalité. C'est quoi, c'est 4 mois, Antonine, de radiation?
Oui.
Ça amène des questions, là. Ça amène beaucoup, beaucoup de questions sur comment on se gère, mettons, avec l'ordre en général. Sont où les limites? Les préférences d'avoir quelqu'un de compétent versus quelqu'un, ces internets, qui se prend pour quelqu'un de compétent?
Oui, parce que ces émissions-là, qui touchent un peu à la psychologie, au couple, à la sexualité, elles vont continuer d'exister, évidemment. Il y a pas mal de professions au Québec qui sont encadrées par un ordre professionnel. Puis un ordre professionnel, l'objectif, c'est de protéger le public à la base. Donc, vous ne pouvez pas aller vous faire soigner par n'importe qui. C'est pas n'importe qui peut se...
Ça a du positif de base.
Exact, se prétendre psychologue notamment. Puis, il y a certaines règles, des codes de déontologie qu'on doit suivre pour protéger le public. Puis, on est tous bien d'accord avec ça. Mais l'histoire de Sylvie Lavallée, peut-être que le nom vous dira rien, mais si vous la cherchez sur un moteur de recherche, vous allez reconnaître son visage, parce que comme tu le disais, Audrey, elle a fait de nombreuses chroniques, elle a écrit des livres, c'est une conférencière, elle est intervenue beaucoup dans l'espace public, mais c'est vraiment d'avoir participé à une télé-réalité qui a visiblement fâché son ordre professionnel. Moi, quand ça arrive, ces choses-là, je me demande toujours s'il n'y avait pas quelque chose de sous-jacent. Puis là, on a comme trouvé le moyen de la pogner, mais que sais-je.
Okay? Mais c'est une télé-réalité. À quelle saveur? On est-tu dans le genre d'occupation double?
Bien, c'est des couples qui se mettent à l'épreuve.
OK.
OK, puis là, je te dis ça. J'écoute pas ça. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment pas une fan de ce genre d'émission-là. Mais les couples se mettent à l'épreuve. Il y a certaines analyses qui sont faites, certains conseils qui sont donnés. Et évidemment, ben, il n'y a pas de confidentialité. Puis ça, c'est une des choses quand tu es sexologue. Tu dois respecter une certaine confidentialité avec tes patients, évidemment. Mais à partir du moment où quelqu'un va dans une télé-réalité, je pense qu'on renonce à cet aspect-là.
Bien, normalement, si tu vas dans une télé-réalité, c'est que tu consens au fait que ce qui va se passer est public.
Bon, c'est ça. Puis le jugement qui est tombé cette semaine dit certaines interventions de Sylvie Lavallée dans le cadre de l'émission entraînent des retombées négatives sur les participants et sont notamment susceptibles de leur porter préjudice sur le plan personnel et occasionner des répercussions sur leurs relations conjugales. En gros, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a donné des conseils qui vont avoir un impact dans leur vie, alors qu'on n'est pas dans un cadre de soins. Donc, tu sais, normalement, tu ne peux pas donner des conseils sur le coin de la table. Tu dois rencontrer, tu sais, un processus à respecter, puis certaines règles pour pouvoir prodiguer des conseils. Donc, elle écope d'une radiation de 4 mois, pardon, et d'une amende de 5 000 $. Elle conteste, donc on va voir si le tribunal des ordres professionnels lui donnera raison. Ce n'est pas la seule, hein? Louise Sigouin, qui est une autre psychologue qu'on voit régulièrement dans les médias, qui s'était carrément retirée de l'ordre. Parce qu'elle, elle avait participé à une série qui s'appelle, une télé-réalité aussi qui s'appelle « Si on s'aimait ». Et c'était aussi par rapport à la vie conjugale qui était présentée à TVA. Et le fait de se faire comme ça un peu écœurée par son autre professionnel, elle a préféré carrément s'en retirer. Puis c'est ça qui est un peu fou. Puis c'est là-dessus que je voulais qu'on discute. C'est qu'est-ce que les ordres gagnent si, en fait, tu peux continuer de faire ce que tu fais exactement en te retirant de l'ordre. Et là, ils n'ont plus aucun contrôle sur ces personnes-là qui vont continuer de faire ce travail-là. Mmh. Est-ce que les ordres ne seraient pas plus avantagés de faire preuve d'une certaine flexibilité justement pour garder un petit peu de contrôle, un lien avec ces personnes-là? Parce que moi, je n'ai pas le droit de dire que je suis sexologue ou psychologue, mais je peux dire que je suis coach de vie.
Ben oui.
Ben, tu dis des conseils à n'importe qui sur TikTok ou à TVA?
Absolument. Tu peux te donner un titre ou c'est sûr que là, il y a un titre que tu peux pas utiliser dans ce temps-là. Tu sais, on a nous autres, Valérie, Mademoiselle V, qui vient nous voir. Elle n'avait pas partie de l'ordre. Donc, elle est conseillère en sexologie.
Voilà.
On peut pas dire qu'elle est sexologue. Elle a les mêmes études, dans la même base, mais parce qu'elle paye pas pour faire partie de l'ordre puis que ça l'intéresse pas parce qu'elle a des visées spécifiques avec son métier, ben, elle n'est pas de l'ordre. Mais moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est que ça nous amène aussi à... Il y a des gens qui ont peur. Puis là, elle est publique, Sylvie Lavallée, OK?
Oui.
Mais pour avoir depuis longtemps un bon carnet au niveau des psychologues, psychiatres et sexologues dans mon téléphone pour certains dossiers qu'on fait en onde, il y en a beaucoup qui n'osent pas parler par peur d'être réprimandés.
Ben,
là, tu es en train de me dire que dans le fond, il faut que je fasse affaire avec des gens peut-être moins compétents pour donner de l'information au public parce que ces gens-là ont peur de parler publiquement. Moi, ça m'insulte un peu.
Ben, en fait, c'est qu'ils n'occupent pas l'espace avec des gens qui sont formés et qui suivent un code de déontologie. Donc, est-ce que l'ordre professionnel qui est censé protéger le public atteint le vrai objectif qui est que les gens reçoivent des bons conseils, des bonnes informations?
Puis en quoi c'est dangereux pour le public, ces informations-là? Ça reste des informations de base. Je pense que c'est logique et du gros bon sens de dire que quand tu publiquement donnes un avis professionnel sur une situation générale, bien, ce sont des conseils généraux aussi.
Ça, oui. T'sais, d'ailleurs, il y a une certaine tolérance quand même envers les chroniques, les entrevues qu'on va donner dans les médias. Mais dans le cadre des émissions de télé-réalité, c'est là qu'on est un peu plus sur la ligne parce que c'est des vraies personnes.
Mais qui consentent à être évaluées de façon publique.
Et voilà. Donc, moi, je pense en tout respect. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychologue, je ne fais pas partie d'un ordre professionnel. Mais que les ordres auraient davantage à être un petit peu plus pragmatiques pour avoir une meilleure flexibilité face à ces situations-là. Parce que tout ce que les gens vont faire, c'est parfait, merci, bonsoir, je vais me retirer de l'ordre, puis maintenant, à partir de maintenant, je vais faire exactement ce que je veux.
Ça va me coûter moins cher, mais on va faire exactement ce que je veux avec mes plateformes.
Puis entre toi et moi, par exemple, notre chroniqueuse qui vient nous parler, conseillère en sexologie, est-ce que tu penses que les gens qui l'écoutent se disent « Ah, ben c'est pas une sexologue qui fait partie de l'ordre, alors je ne crois pas ce qu'elle dit? »
Je pense plus aujourd'hui.
Ben, non.
J'ai l'impression qu'il y a une époque où ça amenait quand même le saut de crédibilité de faire partie de l'ordre, mais je pense pas que c'est le cas nécessairement.
Mais bien, en fait, c'est que j'ai l'impression que ceux qui ont cette réaction-là, c'est qu'ils sont pas au courant que la seule raison pourquoi on peut pas dire sexologue puis il faut dire conseillère en sexologie, même si ça a toutes les mêmes qualifications.
C'est parce que tu payes pas l'ordre.
Exact. Je pense que les gens qui vont penser ça, c'est ça. Ben, c'est des gens qui savent pas.
C'est pas la seule nuance. Dans le cas de Mademoiselle V, peut-être, mais il y en a qu'ils vont pas nécessairement avoir les mêmes qualifications.
En effet.
Qui vont pas suivre de code de déontologie. Fait que ça peut être un, mais ça peut être l'autre aussi. Donc moi, je trouve que l'ordre demeure pertinent.
Oui.
Mais encore faut-il qu'on soit pragmatique et qu'on ait les yeux sur l'objectif. Si on fait juste têter sur des affaires vraiment rigides qui ne sont plus adaptées non plus au goût du jour. Là.
Puis je trouve que c'est plus important que jamais de donner ta confiance comme ordre à ces professionnels-là. Parce qu'on est à une époque où des pseudos, il y en a plein sur les réseaux
sociaux. C'est une épidémie.
Hey!
Donc,
c'est fou.
Il faut que les vrais professionnels, les vrais experts occupent l'espace.
C'est comme
donc,
si demain matin, parce que moi, je fais des chroniques avec Val depuis 3 ans, parce que j'ai un podcast sur la sexologie, que je me fais un compte, puis je prétends que je peux vous conseiller, moi, ces réseaux sociaux. J'ai aucune étude là-dedans.
Mais en tout cas, toi, tu te gardes une gêne, mais il y en a pas mal qui se gardent pas de gêne. Des pseudo-nutritionnistes, des pseudo-médecins, des pseudo-psychologues, c'est plein.
C'est pas parce que ça fonctionne pour toi que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre. Tu sais, ce sont des domaines où c'est très, très personnalisé. Je trouverais ça plate pour revenir au cas de Sylvie Lavallée avec la télé-réalité, qu'on se ramasse à avoir des pseudos, justement, à la télévision parce qu'on n'est pas capable d'avoir un vrai sexologue.
Son cas, on dirait que c'est quasiment comme si une psychologue venait en studio puis nous donnait des conseils.
Puis qu'elle se faisait radier.
Quelqu'un entendait ça puis disait, hey, elle peut pas aller là à radio puis donner des conseils à la radio. C'est pas... Ouais, mais ça fait quoi à qui, là?
Mais tu remarqueras que beaucoup de professionnels qu'on va recevoir vont prendre le temps de mentionner le fait que ce sont des conseils généraux, hein?
Ouais.
Si vous voulez plus d'informations, venez me voir. Ça reste personnel
sont
à chacun.
Obligés.
Sont obligés de se baquer parce que tu veux pas avoir affaire à ça. Mais je trouve ça tellement niaiseux. Puis je trouve ça plate pour la population.
Ben en fait, c'est que s'ils veulent pas qu'on trouve ça niaiseux, il va falloir qu'il s'attaque aux bonnes cibles. Puis, tu sais, dans ce cas-là, c'est que c'est pas des conseils généraux à tout vent. C'est vraiment, ça concernait des personnes. C'est des consultations qui sont télévisées, puis qui sont publiques comme telles. Puis on considère que le processus n'a pas été nécessairement bien suivi.
T'sais, est-ce que peut-être dans le contrat de la télé-réalité, il aurait fallu qu'il y ait une annexe, puis je sais pas comment ça s'est fait, mais une annexe où, justement, pour reprendre son exemple, Sylvie Lavallée signe sur le fait que normalement, ce sont des conseils qui se feraient dans le privé, mais les participants consentent au fait qu'on va les faire publiquement. T'sais, y a-tu une manière peut-être d'évoluer à ce niveau-là aussi? C'est peut-être une leçon pour la télévision également. Là.
Oui, peut-être aussi que les téléréalités pourraient s'adapter, mais je pense qu'il faut partir un dialogue. Si les autres font juste surveiller puis s'éveillent, puis tu sais, on dit ça, peut-être qu'il y a une discussion, un dialogue qui a commencé, puis que peut-être que les autres professionnels aussi seraient ouverts à donner des conseils en amont quand il y a le temps d'organiser ce genre de téléréalité-là pour s'assurer d'une certaine protection du public. Mais si c'est juste, ben à chaque fois qu'on a un de nos professionnels qui prend la parole, ben c'est des amendes puis c'est des radiations.
Moi, ça donne pas envie.
Ben, en fait, moi, je pense que ça, ils vont rien atteindre comme objectif.
Absolument, je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'aime pas trop citer nécessairement la Chine en exemple, mais ils viennent de voter une loi pour empêcher les YouTubers qui n'ont pas de diplôme de dire n'importe quoi sur n'importe quelle plateforme.
Oui, c'est vrai.
On devrait peut-être